Ceci est enregistré à l'intention de l'Institut national des jeunes aveugles. Titre de l'ouvrage, Deux grains de grenade, conte du Maghreb, M-A-G-H-R-E-B. Le Maghreb, c'est-à-dire en arabe le pays du couchant, désigne les trois pays d'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Édition Folio Junior, 1981. Ces contes ont été traduits de l'arabe et établis par J. Sel Mili, S-C-E-2-L-E-S, trait d'union, M-I-2-L-I-E. Première cassette, première face, page 19. Le premier conte s'appelle Le Prince Noir. Un roi avait trois femmes qui chacune lui donnèrent un fils. Il partageait son temps entre ses occupations de famille et ses devoirs de souverain. Mais sa distraction préférée était la chasse. Un jour où il avait organisé une battue dans la forêt, il voulut s'éloigner du groupe de ses compagnons pour manger à l'écart avec quelques familiers et prendre un peu de repos. C'était l'heure de midi. Après le repas, les intimes qui l'avaient suivi s'allongèrent pour la sieste. Le roi se prosterna pour sa prière. Tu sais que les musulmans font la prière 5 fois par jour. Puis s'apprêtait à rejoindre les dormeurs quand une fille sauvage surgit d'un buisson et poussa un grand cri. Un énorme serpent se dirigeait vers le roi. Ce cri mit le roi en garde et réveilla sa suite. Le serpent fut tué et le roi sauvé. Le souverain regarda alors avec des yeux pleins de gratitude la curieuse créature à qui il devait d'avoir échappé à la mort. Elle était très belle, mais de couleur sombre. Le roi lui proposa de l'épouser, elle y consentit. Ces trois femmes blanches n'aimaient guère leur nouvelle compagne. Tu sais que les musulmans ont le droit d'épouser 4 femmes. Le roi avait donc déjà épousé 3 femmes blanches et il épousait une 4e femme, noire, sombre. Les 3 femmes blanches appelaient cette nouvelle femme la Ouria Khumria, c'est-à-dire l'ange brun. La mulâtresse donna aussi au souverain un fils. Hélas, il était noir comme l'ébène, si noir qu'après l'avoir vu, les 3 autres épouses le décrivirent comme Akhal Mafihim Mara, c'est-à-dire noir tel qu'il n'y a pas en lui un seul fil blanc, une cicatrice ou une tache blanche. Et le roi l'appela Kahl, K-A-H-L, c'est-à-dire le noir. Ce monarque était assez gêné d'avoir un fils nègre. Les moqueries de ces 3 femmes n'étaient d'ailleurs pas faites pour détendre la situation. Les 4 enfants grandissaient dans les jardins du palais. Chaque femme en avait un, bien sûr. Mais la Khumria, la noire, comprit vite qu'il convenait d'éloigner le plus possible son fils mal aimé. Elle confia son éducation à un vieil homme habitant la forêt du nom de Hatab, H-A-D-T-A-B, qui était à la fois bûcheron, habile archer et philosophe. Le jeune Kahl reçut de lui d'excellents principes et au temps de son adolescence fut élevé dans le courage, l'honneur et les nobles exemples. Quand il était très jeune, sa mère allait le voir de loin en loin chez Hatab. Plus tard, il revint à la cour avec discrétion, par intermittence. D'ailleurs, le roi était malade et ne pouvait guère s'occuper de lui. Le conseiller du roi dit à celui-ci que pour guérir, il était indispensable que ses fils se missent en route de l'oiseau de nuit qui se trouve chez la princesse des 7 îles. C'était là une recherche pleine de périls. Mais le roi pensa que cette épreuve formerait ses quatre fils. Il donna à chacun d'eux un cheval, des armes et une bourse, et les envoya à la quête de l'oiseau, en leur fixant un commun rendez-vous dans un an. Le cheval de Kahl était noir comme son maître. Kahl, qui était formé comme un habile cavalier, n'eut pas de peine à se familiariser avec lui et comprit très vite que son cheval était un djinn, D-J-I-2-N, c'est-à-dire animé par un génie. C'était donc un cheval magique. Les quatre jeunes gens galopèrent ensemble jusqu'à un croisement de route. Là, deux voies se proposaient à eux. Chacune d'elles avait un poteau indicateur. Le premier panneau disait « Chemin où on est sûr de revenir ». Le deuxième annonçait « Chemin où on est sûr de ne pas revenir ». Les trois fils blancs choisirent de continuer leur voyage ensemble en prenant la route la plus facile. Le quatrième ne voulait pas imposer sa compagnie à ses frères. De plus, l'aventure ne lui déplaisait pas. Il s'engagea donc seul avec son cheval noir sur la route dont on ne revenait pas. Les trois frères blancs ne savourèrent pas longtemps la joie de leur liberté loin de la cour et leur chevauchée dans un pays pourtant annoncé comme facile. En effet, la contrée devint très rapidement désertique et bientôt apparut au loin un nuage de poussière soulevé par une troupe de cavaliers du désert entraînés au banditisme et au pillage des caravanes. Dans un tumulte de cris sauvages et de coups de fusil claquant au vent, ils attaquèrent les trois adolescents, les détroussèrent de leur argent, de leurs chevaux, de leurs armes, et les laissèrent vêtus d'une simple gandoura, c'est-à-dire une longue chemise blanche en coton, et livrés à eux seuls dans cette région désolée. Ils y souffrirent la faim et la soif avant de découvrir âmes qui vivent. Finalement, ils échouèrent dans un village de bédouins, c'est-à-dire d'habitants du désert, où l'un des princes s'engagea comme berger, l'autre comme garçon de café et le troisième comme boulanger. L'enfant noir, monté sur son cheval noir, s'était quant à lui élancé sur la route du péril. Il y rencontra un saint homme assis sur une natte et le salua du salut oriental « Ya salam alaikum » au cheikh, c'est-à-dire « La paix soit avec toi, Seigneur ». Mes frères et moi avons notre père malade. Il nous a envoyés à la recherche de l'oiseau de nuit et de la princesse des sept îles. Cet oiseau seul pourrait le guérir. Ne pourriez-vous m'indiquer la route à suivre pour l'obtenir ? Le saint homme réfléchit et dit « Ce voyage est très dangereux. Je puis au moins te signaler les dangers que tu vas affronter. Tu vas d'abord rencontrer Imat el-Khula, c'est-à-dire la mère ogresse, dont un sein pend en avant et l'autre est rejeté en arrière. Elle vit entourée de ses trois fils. Ils sont tous très cruels. S'ils se saisissent de toi, tu es perdu. Mais si tu arrives à toucher un sein de l'ogresse, elle t'adoptera et te protégera. Puis tu rencontreras un passage gardé par un taureau et un lion. Mais le taureau a devant lui un paquet de viande et le lion a devant lui une botte de paille, ce qui les rend furieux. Si tu arrives, avant qu'il ne s'élance sur toi, à placer la paille devant le taureau et la viande devant le lion, peut-être se jetteront-ils sur leur nourriture et te laisseront-ils le passage libre entre eux deux. » L'enfant remercia le saint homme, éprona son cheval et partit au galop, le cœur plein de courage. Il chevaucha pendant plusieurs jours et plusieurs semaines. Lorsqu'un soir, dans la nuit, il vit de loin, dans les rochers, un feu. S'approchant avec précaution, il entrevit à la lueur de ce feu Imat el-Khula, la mère ogresse, qui se réchauffait près du brasier, tandis que ses trois fils, dans un coin de la grotte, paraissaient s'être assoupis. Il s'approcha de l'ogresse sur la pointe des pieds, mit sa main sur le sein qui pendait en arrière. L'ogresse fut surprise, mais devant ce geste, elle se retourna et considéra le jeune homme avec bienveillance. Kahl lui dit que son père était malade et qu'il allait essayer d'enlever pour lui l'oiseau de nuit de la princesse des Sept Îles. L'ogresse lui répondit que pour une expédition aussi dangereuse, il n'aurait pas de trop de la protection de ses trois fils ghouls, c'est-à-dire sorciers. Le lendemain, ils firent donc route tous les trois avec le jeune homme jusqu'au passage gardé par le taureau et le lion. Là, les trois jeunes ghouls embrassèrent le prince noir avant de le laisser entreprendre seul son épreuve. Et tandis qu'eux tenaient en respect le lion et le taureau, Kahl se saisissait adroitement de la botte de paille qu'il troquait devant le taureau contre le paquet de viande porté au lion. D'un geste de la main, le prince salua ses protecteurs et fonça seul avec son cheval noir entre le taureau et le lion pour aborder les épreuves futures. Il sentit à ce moment son cœur se serrer. Pour lui, tout devenait inconnu. Plus de conseils du saint homme, plus de protection de la mère ogresse. Son cheval noir compatit à son angoisse, et comme c'était un cheval djinn, un cheval magique, il lui dit « Ne crains rien, je t'aiderai de mon mieux. » Kahl arriva ainsi près d'une rivière profonde, point de barque à l'horizon. Il alluma un petit feu, fit chauffer son lait, prit un peu de pain et écouta les conseils de son cheval noir. « Reste ici jusqu'à l'aube, lui dit celui-ci. Au premier rayon de l'aurore, tu apercevras dans la rivière un grand poisson dont la tête sera tournée vers cette rive-ci pendant que sa queue touchera la rive opposée. Monte sur sa tête et attends patiemment. Tout au long de la journée, le poisson, très, très, très lentement, se retournera. Et le soir, sa queue se présentera de ce côté, mais sa tête t'aura sur l'autre bord. L'enfant noir fit ainsi, et la rivière fut passée. Mais cette fois, il se retrouvait sans conseiller, sans cheval et seul dans l'île de la princesse. Du rivage, il ne voyait qu'une montagne et au sommet de la montagne, un château, celui de la princesse. Le jeune homme distingua à travers la forêt un sentier qui montait au château. Il s'y engagea et marcha jusqu'au coucher du soleil. Arrivé sur l'esplanade du château, à cette heure crépusculaire, il aperçut allongée sur les marches du palais, une jeune fille extrêmement belle, sa chevelure d'or à ses épaules. Tout près se trouvait une cage contenant un oiseau. C'était l'oiseau de nuit qui avait connaissance de ce que le prince noir allait venir l'enlever. L'oiseau alerta la princesse pour l'informer de la venue du prince. Mais la princesse de la nuit, ne le crut pas. Comme elle ne réagissait pas, à minuit, Kahl s'approcha doucement de la cage et ravit l'oiseau qui l'emporta en courant. À son retour, il traversa la rivière sur le poisson en adoptant le même procédé qu'à l'aller. Puis il retrouva son cher cheval noir. Il repassa entre le taureau et le lion et finalement se retrouva à la croisée des chemins. Cela faisait presque une année qu'il était parti et son père avait fixé à un an le terme du retour des quatre fils. Karl fut étonné de ne trouver aucun message de ses... au carrefour où il s'était donné rendez-vous. Aussi retourna-t-il auprès du saint homme pour savoir s'il avait de leurs nouvelles. Le saint homme lui conseilla d'engager ses recherches dans le chemin où on est sûr de revenir. Karl se lança donc sur son cheval noir dans cette direction. Mais à peine avait-il fait quelques kilomètres qu'il fut attaqué par la bande des pillards du désert. Comme le prince noir avait été bien entraîné aux armes par son vieil archer, il tintait à toute la troupe et quand il les eut désarçonnés ou mis en fuite, il découvrit, parmi les objets abandonnés, des armes aux marques de ses frères. Il interrogea les blessés qui lui avouèrent qu'un an auparavant, ils avaient effectivement attaqué et dépouillé trois jeunes gens. Il leur avait laissé la vie sauve et comme le pays n'avait aucune ressource, ils conseillèrent au jeune homme de mener son enquête dans les villages environnants. Karl se rendit donc dans une bourgade proche. Il entra dans un café pour s'y faire servir une tasse de thé. Quelle ne fut pas sa surprise en reconnaissant dans le garçon de café l'un de ses frères. Celui-ci lui raconta leur pénible odyssée. Il s'était fait dépouiller dès le premier obstacle et depuis un an végétaient tous les trois comme des miséreux, lui comme garçon de café, les deux autres comme boulanger. Karl réunit donc ses trois frères, leur annonça qu'il était porteur du précieux oiseau qui devait guérir le roi, et les quatre frères se mirent en route pour le retour à la maison du père. Les trois fils blancs étaient rassurés par la présence de leur frère Karl, qui avait donné des preuves de son courage, mais ils étaient jaloux de lui. Lorsqu'ils furent tout proches de la croisée des chemins, ils virent un puits. Ils avaient soif, mais comme seul Karl était fort, pour en ramener de l'eau. Et quand il fut au fond, ils coupèrent la corde de rappel, volèrent l'oiseau de nuit et revinrent au palais. Ils pensaient bien que leur frère mourrait noyé et qu'on n'entendrait plus parler de lui. Le père fut dans la joie de revoir ses trois enfants. Mais il leur demanda ce qu'ils avaient fait de Karl. Ils dirent que leur chemin s'était séparé, mais que eux revenaient avec l'oiseau de nuit. Le roi n'était pas tellement fier de son fils noir et il se consola de son absence, d'autant plus qu'on égorgea l'oiseau et qu'ainsi il redevint en bonne santé. Karl, de son côté, se morfondait seul au fond de son trou. Comme son cheval noir avait pitié de lui, il finit par rattraper le bout de la corde coupée. La saisissant à pleine mâchoire, il la lança à son maître et le repêcha. Karl reprit donc le chemin du pays de ses parents. Au même moment, la princesse des Sept Îles, désespérée de voir qu'on lui avait enlevé son oiseau de nuit, se rappela l'avertissement qu'il lui avait donné et qu'elle avait négligé, où l'oiseau indiquait qu'il allait être enlevé par le prince noir. Elle envoya donc l'un de ses djinns, des génies à son service, pour enquêter sur le pays du prince. L'envoyé découvrit la ville de Karl. Le lendemain, la princesse avait mobilisé tous ses djinns pour venir camper à côté du pays du roi. En une seule nuit, les djinns construisirent une ville de rêve, aux colonnades d'or, aux parterres de marbre, aux murs de glace, aux tapis chatoyants plus beaux que toutes les fleurs du monde. Puis la princesse envoya un djinn déguisé en homme pour inviter le roi à venir prendre le thé chez elle. Le djinn conduisit le roi, qui fut bien étonné de trouver aux portes de sa ville cette ville nouvelle, somptueuse et qu'il ne connaissait pas. La princesse s'entretint avec lui et lui demanda s'il avait des enfants. Il dit qu'il avait trois fils. Il ne mentionna pas Karl, d'abord parce qu'il n'avait jamais été fier de lui, ensuite parce qu'il ne l'avait pas vu revenir et qu'il le croyait mort. la princesse proposa au roi que ses fils acceptassent de faire avec elle une course de chevaux. Elle avait en effet déjà fait construire un stade dans son palais. Le roi acquiesça. Le lendemain, ses fils se présentèrent. Mais la piste était dallée de marbre. Les chevaux glissaient et les trois jeunes gens successivement y firent des chutes graves et se blessèrent. Pendant ce temps, Karl était arrivé au palais. Son père l'y reçut. Avec quelle émotion il entendit le récit de toutes les aventures de ce fils qu'il avait si injustement négligé. Certes, l'âme de Karl n'était pas de la couleur de sa peau. Comme il s'était montré courageux, droit, pur dans ses intentions, habile dans ses combats, généreux avec ses frères, qu'il avait si mal récompensé. Le roi apprit à Karl que ses autres fils étaient partis faire la course sur le stade d'une princesse qui venait de s'installer dans le pays, mais que déjà des nouvelles fâcheuses lui étaient parvenues sur leur chute et leurs blessures. Le père craignait un mauvais sort. Toujours courageux et magnanime, Karl dit « Ne craignez rien, père, je vais y aller. » Le roi était de plus en plus confondu de n'avoir pas plus tôt su reconnaître les mérites d'un tel fils. Karl enfourcha son brave cheval noir et partit s'entraîner à la campagne. Son cheval, qui devinait son inquiétude, lui dit « Aie confiance en moi. Nous allons nous préparer et nous fatiguer pendant des heures par toutes sortes de courses et de sauts d'obstacles. Je vais être ruisselant de sueur. Quand tu me verras dans cet état, passe la main sur moi et fais-toi des massages sur tout le corps avec ma sueur. » Ils firent ainsi, et au fur et à mesure que le jeune homme se massait, la couleur noire se dissolvait. « Regarde-toi, dit le cheval noir, tu es devenu blanc. » Le prince était radieux, sa taille et ses muscles prenaient toute leur valeur dans ce teint éclatant. Il se présenta à son père et à sa mère, qui explosèrent de joie. Le roi rendit visite à la princesse et lui dit « Je suis confus de ne pas vous avoir parlé de mon quatrième fils. Il revient d'un long voyage et je n'avais plus l'espoir de le revoir. » Le jeune homme se présenta, mais la princesse reconnut immédiatement le ravisseur de son oiseau de nuit. Il fit sur le stade une chevauchée prestigieuse. Devant sa beauté toute neuve, elle lui pardonna facilement. Et les jours suivants virent se dérouler dans le nouveau palais d'or et de glace les épousailles de la princesse des Sept Îles et du plus beau des princes. Le conte suivant s'appelle « Les Sept Frères contre le Ghoul ». G-H-O-U-L-E. Je te rappelle qu'un ghoul, c'est un ogre. Une mère de famille avait sept fils et une fille. La fille était belle comme une reine. Les fils avaient chacun reçu du ciel une grâce particulière, un don qui était si remarquable que cette grâce, ce don, lui servait de nom. C'est ainsi que l'aîné, adroit et fort, se nommait tireur à l'arc. Le deuxième fils n'avait qu'à frapper le sol de son pied et la terre s'entr'ouvrait pour lui permettre un refuge souterrain. On l'appelait frappeur du pied sur le sol et il s'entr'ouvre. Le troisième fils avait l'oreille si fine qu'il était capable de déceler le son le plus discret de la nature. C'était écouteur de rosée. Le quatrième fils avait le don de cracher une salive qui parlait à sa place. Il se nommait cracheur à terre et sa salive parle. Le cinquième fils avait une patience et une légèreté manuelle, angélique, qui lui permettaient de démêler les fils les plus fins, les plus ténus laissés par les animaux ayant accroché leur toison dans les buissons épineux, ce qui lui avait valu le nom de fileur de fils de soie accrochés au cédra. Le cédra, c'est un buisson épineux qui produit des fruits et que l'on trouve en Orient. Le sixième fils était doué pour ouvrir les serrures. Il avait nom toucheur de serrures et ses accessoires s'envolent. Le septième et dernier fils avait enfin, comme le grand roi Salomon, le don de se faire obéir par les vents, et on l'appelait commandeur des vents, et il l'emporte. Or, il arriva un jour un grand malheur. La fille unique, qui était le joyau de la famille, fut enlevée par un goul, c'est-à-dire, comme je te l'ai déjà dit, un ogre. Ses frères se promenaient dans la campagne lorsque l'enlèvement eut lieu. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, ils trouvèrent leur pauvre mère éplorée qui les avertit du rapt et les lança à la recherche de leur sœur. Les jeunes gens, la rage au cœur, se mirent donc à battre toute la contrée. Ils commencèrent par les régions en bordure de la mer. En ordre dispersé pour aller plus vite, ils se partagèrent l'inspection des rivages, des grottes marines, des vallées et des monts donnant sur l'océan. Au crépuscule, ils se réunirent bien déçus, car tous leurs efforts avaient été vains. Le désespoir commençait à embrunir leurs yeux. Ils pensèrent alors qu'il serait peut-être bon, pour sauver leur sœur avant la nuit, de coordonner leur grâce particulière et de donner à chacun des frères, étape par étape, l'occasion logique d'exercer le don qu'il avait reçu du ciel. Il s'agissait d'abord de définir une direction de recherche pour ne pas courir en vain de ci, de là. Les frères s'adressèrent des vents et ils l'emportent. Le jeune homme, très recueilli, se mit à l'écoute. Il pria le vent de souffler dans la direction de la chair disparue et de l'emporter près d'elle. Les sept jeunes gens s'engouffrèrent donc sur la trace de commandeur des vents. Ils arrivèrent ainsi à la maison du goul. Elle était située sur la montagne. Ils virent là des vaches et des moutons qui paissaient en liberté. Près de la maison se trouvaient deux grands bassins pleins d'eau et deux poutres de fer de centaines de mètres de longueur. La maison n'avait qu'une porte d'entrée. Elle était verrouillée car la nuit commençait à les envelopper. Leur cœur se serra en pensant que leur sœur était prisonnière derrière ces grands murs. Ils prièrent donc, toucheur de serrures et ses accessoires sans vol, d'intervenir. Celui-ci posa la main sur la lourde barre de fer qui bloquait la porte, et la porte put jouer sur ses gonds et s'ouvrir. Le goul n'était pas encore là. Les frères se réjouissaient de leur sœur retrouvée, mais celle-ci tremblait à l'idée de voir l'ogre revenir d'un moment à l'autre, car il les dévorerait certainement. Pourtant, elle répondit gentiment aux demandes des jeunes gens. À quoi servent ces deux grands bassins? En leur disant, c'est là qu'ils boivent et qu'ils se lavent. Mais que fait-il de ces immenses barres de fer? Il s'en sert pour se récurer les dents lorsqu'il a fini de dévorer ses proies. À peine avait-elle fini de parler que l'on sentit la maison bouger. Le frère archer, aussi naïf que courageux, dit aux jeunes gens inquiets, « Ne craignez rien, je suis là !» La sœur sourit. Elle leur dit que ce tremblement de terre n'était que le signe d'une arrivée lointaine. Le goul devait être en marche vers la maison et encore à quelques kilomètres. De plus près, ce serait bien autre chose. Les jeunes gens étaient terrifiés. Ils ne pouvaient maintenant songer à partir, car ils seraient rattrapés. Le plus sage pour eux était de rester dans la maison, de se cacher et d'attendre. L'aube du jour nouveau leur permettrait sans doute d'enlever leur sœur. La maison sursautait de plus en plus fort. Les garçons, dissimulés de divers côtés, échangeaient quelques paroles à voix basse quand la jeune fille leur imposa le silence. « Voilà l'ogre !» Le goul entra, colossal, avec ses yeux torves, ses canines débordantes, ses doigts comme des serres, des griffes d'oiseaux de proie, son poil hirsute. Il huma l'air, jeta un coup d'œil soupçonné vers la jeune fille et d'une voix caverneuse. Ça sent la chair fraîche ici. Et moi, dit-elle, ne suis-je pas fraîche? Je sens d'autres chairs. C'est sans doute l'odeur des bêtes que tu as dévorées. Pour être sûr de ne pas traîner avec lui d'autres relents d'odeur, l'ogre sortit, alla se récurer les dents avec ses barres de fer, puis il se lava dans ses deux bassins. Pendant ce temps, la jeune fille, pour couper court à toute discussion, était allée s'allonger sur son lit, non sans avoir dit à ses frères « Prenez garde, car il est très, très, très rusé. Il peut faire semblant de dormir et vous guetter. Mais moi, je saurai quand il dormira vraiment. Tant qu'il sera éveillé, j'aurai les yeux fermés. Et s'il dort, je rouvrirai les yeux. » Lorsque l'ogre revint de sa toilette, il alla se coucher auprès d'elle, car il était fatigué de ses courses et se sentait gagné par le sommeil. Mais comme il craignait qu'elle ne profitât de son sommeil pour s'enfuir, il saisit la blonde chevelure dénouée sur l'oreiller et l'entortilla dans ses ongles et dans ses dents. Les jeunes gens surveillaient leur sœur de loin. Quand ils virent ses paupières s'entrouvrir, annonçant que l'ogre était vraiment endormi, ils dirent à Fileur de Soie accrochée au cédrat, « C'est ton tour maintenant de montrer ce que tu sais faire. » Fileur de fil de soie accrochée au cédrat intervint donc, et de sa main légère, il fit glisser au dehors, un à un, les cheveux de sa sœur qui étaient entremêlés dans les griffes et les dents de l'ogre. Maintenant, la jeune fille était libérée. Il fallait profiter du sommeil du goul pour prendre la fuite. Mais il était prudent d'user d'un stratagème afin d'éviter que le réveil du monstre ne soit une catastrophe pour la petite troupe des jeunes garçons enlevant la prisonnière. Ils firent donc appel à Cracheur à terre et sa salive parle. Celui-ci cracha d'abord au premier étage, puis au rez-de-chaussée. À la salive du premier étage, il donna l'ordre de dire « Je suis ici !» et à celle du rez-de-chaussée « Ferme la porte !» Ceci fait, les jeunes gens s'élancèrent au dehors. Ils couraient éperdument car il fallait aller vite avant que la salive ne sèche. Le goul ne tarda pas à s'éveiller. Il entra dans une colère folle en constatant la disparition de la jeune fille à ses côtés.
« Où es-tu »
cria-t-il d'une voix de tonnerre. Et du premier étage, une voix dit « Je suis ici !» L'ogre monta l'escalier en trombe. Arrivé au premier, il chercha la jeune fille en vain. De plus en plus excité, il vociféra.
« Où es-tu ?»
Du rez-de-chaussée, une voix se fit entendre. « Ferme la porte !» Dans un bruit infernal, il précipita sa masse de plusieurs tonnes dans l'escalier, donna des coups de pied dans tous les tapis, les coussins, les escabeaux. Pas de trace de sa prisonnière nulle part. Après plusieurs va-et-vient fracassants du rez-de-chaussée au premier et du premier au rez-de-chaussée, entre la voix de « Je suis ici !» et celle de « Ferme la porte !» le goul, au paroxysme de la rage, s'élança vers l'extérieur. La petite troupe était déjà loin et reprenait confiance. Sauf écouteur de rosée qui avait entendu la voix des salives. Il pria donc son frère, frappeur du pied sur le sol et il s'entr'ouvre, d'intervenir au plus tôt, craignant à juste titre que le géant ait vite fait de les rejoindre. Frappeur tapa du talon sur la terre, qui livra passage aux jeunes gens dans les profondeurs de galeries souterraines. Mais le Goulde aussi détenait le pouvoir de marcher sous terre. Heureusement, écouteur de rosée était en alerte pour prévenir ses frères. Quand le Goulde s'engouffrait dans le sol, la petite troupe grimpait en surface. Quand le Goulde sortait au jour, frappeur du pied sur le sol et il s'en trouve, lui permettait un refuge dans les profondeurs. Ce fut donc, entre le Goulde et les sept frères protecteurs de la jeune enlevée, une rude poursuite dans laquelle le monstre avait l'avantage de la rapidité. Il avait aussi le pouvoir de se métamorphoser, de se transformer à sa guise. C'est ainsi qu'à un moment, les garçons crurent être définitivement débarrassés de leur ennemi parce qu'ils ne l'entendaient plus. Par prudence, ils demandèrent à Commandeur des Vents, et il l'emporte, d'aller faire une expédition de reconnaissance autour de la maison de leur mère pour voir s'ils ne les avaient pas devancés et ne leur préparaient pas une embuscade près de leur arrivée au but. Commandeur des Vents, et il l'emporte, se fit donc enlever sur l'aile de la brise matinale en lui ordonnant de le conduire jusqu'au Goulde. La brise le déposa près d'un petit agneau qui broutait paisiblement auprès de la maison de la mère. Commandeur des Vents revint donc par les airs auprès de la troupe et dit à Tireur à l'arc que cette fois son tour était bienvenu d'entrer en action contre le Goulde déguisé en agneau. Rampant dans l'herbe, les jeunes gens cernèrent l'agneau, puis l'archer épaula avec précision et lui décocha sa flèche. La peau de l'agneau éclata. Le Goulde en jaillit blessé à mort et dans un gémissement lugubre vint s'écraser devant la porte de la maison de la mère. Alors les sept frères triomphants ramenèrent leur sœur bien-aimée tout auréolée des feux du soleil de l'aurore. Ce fut une joie immense pour la famille, enfin réunie, après tant d'épreuves. Le conte suivant s'appelle « Le couscous enchaîné ». Ben Salem, B-E-N-S-A-L-E-M, habitait depuis sa naissance dans une oasis du Sahara occidental, une humble maisonnette du Ksar, c'est-à-dire du quartier, réservée à la population noire de la ville. Il faut que tu saches que dans le sud du Maroc, c'est déjà le début du Sahara, et il y a à la fois des Arabes ou des Berbères, c'est-à-dire des populations blanches ou un peu basanées, à peine un peu basanées, et des Noirs, qui sont d'anciens esclaves. Son père la lui avait laissée pour tout héritage. Cette maisonnette comportait trois petites pièces. L'une centrale qui servait de salle commune et de chambre pour le ménage. À droite, la chambre des enfants. À gauche, la cuisine et la réserve. Le tout donnait sur une courette où se trouvait un petit appentis destiné à son pauvre poulailler et à sa brebis. Son jardin était situé hors les murs, dans la partie de l'oasis où les divers enclos de culture bénéficiaient d'un tour d'eau de la Séguia, c'est-à-dire du canal d'irrigation. On est dans le désert, une oasis c'est un endroit où il y a de l'eau au milieu du désert et cette eau est distribuée par des canaux et chacun à son tour a le droit de dériver l'eau du canal vers son jardin. C'est ce qu'on appelle le tour d'eau. Cette chose existe aussi dans des certaines parties du sud de la France, en Provence, où on fait de l'irrigation. Ben Salem cultivait son jardin avec amour et avait même creusé dans le sol une sorte de silo couvert qui lui servait à entreposer momentanément ses récoltes et à abriter ses outils. En été, lorsque la chaleur devenait étouffante dans la maison, toute la famille avait l'habitude de venir déjeuner dans le jardin et de faire la sieste à l'ombre dans cette grotte. La famille de Ben Salem comportait en dehors de lui sa femme, ses deux enfants, la brebis et les poules qu'il approvisionnait en lait et en œufs, et aussi un chat qui était le personnage sérieux de la maison. On l'appelait Lassas, L-A accent circonflexe, C-C-D-I-A-S, c'est-à-dire le gardien. Et de fait, il s'acquittait de cette fonction de gardien avec une grande dignité. Il suivait pas à pas les travaux de la maîtresse de maison dans son office quotidien, soit qu'elle roulât le couscous dans ses mains, soit qu'elle préparât un tagine, c'est-à-dire une espèce de ragoût, sur son petit fourneau, soit qu'elle grilla le café ou qu'elle fila la dernière toison de sa brebis. Quand au cours de la journée, les enfants sortaient pour aller à l'école, après les avoir accompagnés à la porte de la courette par laquelle on accédait à la rue, Lassas, le chat gardien, se blottissait derrière cette ouverture et attendait patiemment leur retour, épiant les moindres bruits de pas des rares passants de la ruelle. Si l'un ou l'autre des habitants de la maison était malade, il ne quittait pas son chevet. Les pauvres réserves de mil, d'orge et de semoule de la famille étaient par lui sévèrement défendues contre tous les rongeurs, rats ou souris. La fidélité du gardien était vraiment un modèle de déférence et de ponctualité. Et pourtant, il y avait une faille dans cette présence. Lassas, la nuit, quand toute la famille dormait, se faufilait par un trou entre les solives et sortait. Ben Salem, l'ayant plusieurs fois cherché vainement avant l'aube, était intrigué par l'activité nocturne de Lassas. Une petite chatte voisine exerçait-elle sa séduction sur ce gardien fidèle? Aurait-il une famille de chats inconnus? Où élevait-il ses enfants? Ses enfants lui ressemblaient-ils? Autant de questions auxquelles Ben Salem se décida un jour à chercher une solution. Fin de la première face de la première cassette
de Deux grains de grenade, conte du Maghreb, par J. Selmili, page 41. Retourne la cassette. Après l'avoir laissé se dérouler jusqu'au bout, bien sûr.